Bonjour à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Aujourd'hui, on est dans l'émission La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft. On est avec Audrey, Rémi et Andrés de Picassoft.
Salut.
Bonjour.
On a le plaisir de recevoir Elliot, qui est le développeur de Funk Whale, dont on reparlera juste après. Salut Elliot.
Salut.
Donc aujourd'hui, on va parler décentralisation et fédération. Alors la décentralisation, vous connaissez sans doute si vous avez écouté l'émission d'il y a deux semaines, puisqu'on en a parlé, mais fédération est un mot encore bien mystérieux, et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Juste avant, on aimerait quand même remercier Marie-Odile Morandi et l'équipe de Transcription de l'April, qui nous a fait le plaisir de transcrire par écrit notre première émission, que vous pouvez retrouver sur le site de l'April. On mettra le lien dans la description de l'émission. Merci beaucoup à eux, et sans plus attendre, Rémi, je te laisse la main pour la petite interview.
Eh bien, bonjour Elliot.
Bonjour Rémi.
Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots un petit peu ton parcours ?
Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Elliot, j'habite Marseille depuis une vingtaine d'années maintenant, et je suis rentré dans le développement assez tard, en fait, parce qu'à la base, je faisais des études de librairie. Donc voilà, et puis j'ai bifurqué petit à petit vers l'informatique et le développement logiciel. Donc ça va faire à peu près 5 ans maintenant que je fais du développement web, 5-6 ans, et il y a quelques années, j'ai commencé à développer Funk Whale, donc on va parler...
Bah justement, ouais, Funk Whale, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce projet, qu'est-ce que c'est ?
Ouais, alors Funk Whale, c'est un projet que j'ai commencé à développer et qui est en fait un serveur de musique, enfin, qui a commencé comme un serveur de musique, qui fait un petit peu plus de choses maintenant. Donc si, pour les personnes qui ne voient pas exactement ce que c'est, si vous voulez, c'est un peu comme si vous pouviez avoir votre propre Spotify ou votre propre Deezer, mais sous votre contrôle avec votre musique.
D'accord, mais du coup, pourquoi ne pas juste utiliser Deezer ou Spotify ? Parce qu'il y a plein de musique dessus déjà. Quel est l'intérêt d'avoir un autre outil ?
Alors l'intérêt, principalement, c'est de pouvoir avoir toute la musique et pas juste la musique qui est disponible sur Deezer ou sur Spotify, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas disponibles sur ces plateformes. C'est aussi une logique qui permet de reprendre le contrôle en fait, sur les contenus qu'on écoute, puisque sur Spotify, sur Deezer, sur Grooveshark, qui était le modèle un petit peu de Funk Whale à la base, en fait, on ne possède pas la musique, on loue, enfin, on paye un abonnement qui nous donne accès à cette musique, mais dès qu'on arrête de payer l'abonnement, on n'y a plus accès. Donc là, ça nous redonne la possibilité, par exemple, d'acheter de la musique sur des plateformes comme Bandcamp, et puis de les mettre en ligne sur notre serveur de musique, et comme ça, on garde accès à cette musique en permanence. Voilà.
D'accord, merci. Et du coup, toi, quand tu as commencé le développement de ce projet, tu étais tout seul. Tout seul, tu as réussi à te motiver à faire ça ?
Alors bon, au début, c'était plus un... Enfin, ça m'a permis, en fait, de progresser, de découvrir des nouveaux outils, des nouvelles technologies. Donc, il y a ça qui m'a beaucoup motivé au début. Le côté apprentissage, en fait, faire quelque chose de nouveau. Et pendant environ 2 ans, Funk Whale, ça a été quelque chose de complètement personnel. Je l'ai pas partagé avec d'autres personnes. J'étais vraiment la seule personne à l'utiliser. Et après, la motivation, ce qui a aidé, c'est de commencer à la montrer à d'autres personnes, effectivement. Et d'avoir des retours positifs, des retours constructifs. Et donc tout ça, de voir que des personnes avaient envie de l'utiliser, avaient envie de l'améliorer, d'y participer, c'est un gros plus pour la motivation.
Ok. Et du coup, là, tu parles de gens qui veulent l'améliorer. Là, je crois que la communauté de contributeurs en général est assez grande. Il y a plus d'une soixantaine de développeurs, il y a des designers, des traducteurs, des gens à l'étranger aussi. Comment tu fais pour gérer tout ça, pour que ça parte pas dans tous les sens ? Je crois que tu as beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup discuté autour des aspects de la gouvernance du projet.
Mmh. Ouais, alors quand je disais que j'avais commencé à en parler, à parler du projet autour de moi, ça doit faire à peu près 1 an et demi. Et assez vite, du coup, avec l'engouement, etc., ça a été dur de tout gérer, sachant qu'en parallèle, j'avais un boulot salarié à temps plein. Donc je faisais ça sur les week-ends, sur mes soirées, et donc très vite, c'est devenu lourd. Entre les demandes de support, entre les contributions qu'il faut analyser, il faut vérifier, il faut éventuellement corriger certaines choses avant de les accepter. Et donc pour pouvoir toujours en faire plus, ce que j'ai décidé en fait, c'est de quitter mon travail. Donc ça s'est fait en décembre 2018. Là, ce qui fait que je peux travailler en fait à temps plein sur Funk Whale. Et en parallèle de ça, on a commencé aussi à s'organiser pour créer une asso. Pour pouvoir avoir un vrai cadre, pas forcément légal, mais pour avoir une vraie structure en fait, qui soit comprise par tout le monde et qui puisse faciliter l'accès au projet. Donc le travail sur la gouvernance, effectivement, ça a été un gros boulot qui il sera jamais vraiment terminé, mais on va dire qu'on a passé la première étape, puisque l'association devrait voir le jour ce mois-ci. On a fait notre premier AG il y a quelques semaines, on va déposer les statuts en préfecture très bientôt. Et voilà, ça c'est pour la partie vraiment organisation concrète. Et après, pour la partie gouvernance un peu plus générale, on s'organise sur un forum qui s'appelle Lumio, qui est un logiciel libre également, et qui permet de... Enfin, qui a pas mal d'outils pour la prise de décision. Donc, par exemple, on peut faire des votes, différents types de votes en plus dessus. Et on essaie d'avoir un maximum de discussions de façon ouverte, en laissant le temps aux personnes, en fait, qui ne bah, qui sont pas dans les mêmes fuseaux horaires que nous, ou qui n'ont pas les mêmes rythmes de vie que nous, de répondre et de participer.
D'accord. Du coup, il y a vraiment une communauté de gens totalement différents qui contribuent un petit peu comme ils peuvent à leur échelle.
Ouais, c'est ça. Bah, parmi les types de contributions qu'on a, il y a le développement, bah, comme tu l'as dit. Mais il y a les traductions, il y a la documentation, il y a des personnes qui font des articles de blog ou de la communication, des personnes qui participent à l'organisation du projet, donc plus d'un point de vue logistique, voilà, quand est-ce qu'on se réunit, qui prend les notes pendant les réunions, ce genre de choses.
D'accord.
C'est assez varié, en fait.
Et du coup, toi, donc, tu l'as dit, là, tu n'as plus travaillé, tu es à temps plein sur Funcoil. Comment ça se passe niveau argent, du coup ? Et est-ce que ce serait possible que tout le monde dans la SoFunQuail puisse être à temps plein dessus ?
Non, alors même moi, je dis que je suis à temps plein parce que je travaille à temps plein dessus, mais je suis pas salarié du tout. Pour le moment, on a très très peu de ressources. On a environ 50 et 100 euros de dons par mois sur notre plateforme Open Collective. Donc c'est clairement pas viable hein, sur du long terme. Par contre, je pense que là, avec le fait d'avoir une asso, ça va nous aider à déjà recevoir plus de dons, à offrir plus de moyens de dons. Et aussi, je pense qu'on va essayer de diversifier les sources de financement. C'est quelque chose qui n'a pas encore été vraiment discuté de façon ouverte avec la communauté, mais on va s'y mettre bientôt pour peut-être avoir voilà, des bourses, participer à des programmes un petit peu de soutien de logiciel libre, ce genre de choses qui pourraient nous amener des moyens de façon un peu plus complète que juste du don. Voilà, donc c'est un des aspects qu'on va creuser. Et après, je pense qu'à terme, donc là pour le moment je vis sur mon chômage, je pense qu'à terme ce qui va se passer c'est que soit Funcoil va grossir suffisamment, comme par exemple un projet comme Mastodon, donc qui est un projet de logiciel qui est également fédéré et où la communauté a su aider à développer le logiciel et donc je pense que économiquement il est viable pour le moment. Et soit on va arriver à quelque chose de similaire, ce qui nous permettra à moi et peut-être à d'autres personnes de vivre dessus. Soit on va trouver d'autres moyens, peut-être que je repasserai à mi-temps sur Funcoil et je ferai quelque chose à côté. Enfin, on va creuser des pistes qui se présenteront.
D'accord, super. Et du coup, j'ai une petite question, tu viens de parler de fédération, on n'a pas encore abordé ce sujet. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce que c'est la fédération, surtout dans Funcoil ?
Alors Funcoil, au début, ce n'était pas du tout un logiciel fédéré, c'était vraiment un serveur, enfin chaque serveur était indépendant. Et puis quand j'en ai parlé sur Mastodon justement, qui est lui-même un logiciel fédéré. Et donc le premier réflexe des gens à qui j'en ai parlé, c'était de dire « Ah, mais est-ce qu'il y a une fédération ?» Et donc je me suis rendu compte très vite que c'était une demande récurrente. Et donc Funcoil est un logiciel fédéré, c'est-à-dire que les différents serveurs peuvent s'échanger de la musique. Donc si vous êtes sur un serveur Funcoil que vous avez envoyé votre bibliothèque musicale, vous pouvez la partager avec vos amis qui sont sur un autre serveur, ou qui sont sur le même serveur que vous d'ailleurs. Et vous pouvez aussi accéder aux bibliothèques musicales qui sont publiques. Il y en a un certain nombre qui ont des contenus, par exemple, sous licence Creative Commons ou dans le domaine public. Tout ça sans quitter votre propre serveur.
Ok. Et du coup, j'ai une dernière question. Faire du libre, faire de la musique gratuite, tout ça, c'est bien beau. Mais bon, on l'a vu, toi, tu galères un petit peu avec la thune, tu arrives grâce au chômage. Mais pour tous les créateurs qui veulent faire de la musique, qui veulent faire du contenu gratuit, qu'est-ce qu'il y a comme une rémunération ? Je crois que tu es en train de monter une plateforme qui permet de... Bah, tu vas nous expliquer un petit peu ce que ça permet de faire, cette plateforme que tu es en train de monter.
Alors, c'est vrai que c'est... Enfin, la question se pose dans Funcoil, parce que comme on peut écouter de la musique qu'on n'a pas forcément achetée, si par exemple elle est partagée avec nous, on se pose la question de comment on finance la création et les personnes qui créent. Et il y a pas mal de choses, si vous regardez des vidéos sur YouTube par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se mettent à Tipeee ou à des plateformes similaires ou à Patreon, où en fait ça fonctionne sur un modèle de don régulier. Donc ça c'est un modèle que je pense qui est intéressant, Le problème, c'est que c'est assez difficile de, ben, si on regarde 15 chaînes vidéo par mois différentes, ben, de savoir où aller donner à chaque fois, sachant que tout le monde n'est pas sur la même plateforme, qu'il y a des personnes, elles veulent juste des dons sur PayPal, ou en Bitcoin, ou enfin peu importe en fait, mais il y a des dizaines et des dizaines de plateformes différentes, de moyens de donner différents. Et donc, je me suis dit que ça serait intéressant de construire quelque chose qui permette d'automatiser cette partie-là. Donc, c'est pas un système de paiement, c'est pas une plateforme de paiement. Ce serait plutôt un outil que vous pourriez utiliser où vous connecteriez vos comptes, vos différents comptes, donc votre compte SoundCloud, votre compte YouTube, enfin, les comptes sur lesquels vous vous trouvez et où vous consommez des contenus. Et en fait, le système vous proposerait automatiquement des créateurs à rémunérer en fonction de votre activité. C'est-à-dire que si vous avez regardé 10 vidéos de telle personne et 10 vidéos de telle autre, bah, le système va aller récupérer les liens vers les plateformes de dons sur les profils des créateurs et vous proposer de leur donner une somme. Ce
D'accord,
projet-là s'appelle Retribute, enfin, c'est le nom de code, on va dire, parce que c'est assez récent, ça peut bouger. Mais c'est un projet qui va sûrement être développé en parallèle de Funkwell et à terme peut-être intégré dans.
bah merci beaucoup pour ça. Donc on retient le projet Retribute. Et bah je crois qu'on a fini avec les questions. Si t'as quelque chose à dire, avec plaisir. Sinon, on va passer un petit peu à des échanges plus entre nous. Donc, t'es le bienvenu pour rester dans le coin.
Ok, merci beaucoup.
Merci à toi.
Eh ben, merci beaucoup, Elliot, pour cette super introduction. Alors, bah, effectivement, on va peut-être essayer de rentrer un petit peu plus, avant de parler philosophie du libre, dans l'aspect fonctionnel. Eh bien, de cette fédération, puisque si c'est assez facile de comprendre des systèmes centralisés comme Facebook, Google ou Deezer, où on a parlé de cette histoire de voilà, il y a un serveur sur lequel on fait des requêtes, eh bien, la fédération reste un petit peu plus obscure parfois, et on se demande eh bien, comment tous ces serveurs disséminés aux quatre coins du monde peuvent bien communiquer et donc se fédérer. Cette fédération se base sur un protocole qui s'appelle ActivityPub et qu'on va brièvement détailler. Donc, pour rappel, hein, les protocoles, c'est simplement une sorte de recette de cuisine de recette pour échanger des informations, que ce soit sur Internet ou ailleurs, mais simplement une Ah, j'ai du mal à un espèce de contrat d'utilisation entre deux personnes qui vont parler un langage commun, voilà. Et donc ActivityPub, c'est un des protocoles qui permet de créer des fédérations. Est-ce que parmi vous, quelqu'un, Andrés, peut-être, tu veux nous expliquer un petit peu ce qu'est ActivityPub?
Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas à quel point c'est simple ou pas de comprendre un informaticien qui passe à la radio. Je vais essayer de parler de manière assez simple. ActivityPub, comme l'a dit Quentin, c'est un protocole assez récent. Un protocole, pour faire simple, c'est des instructions pour communiquer avec quelqu'un d'autre. Par exemple, un protocole simple, ça serait 1, dire bonjour, 2, échanger les messages, et 3, dire au revoir. Si on suit ce protocole, on peut suivre ce protocole pour avoir une conversation avec quelqu'un d'autre. Et sur Internet, ça se passe de la même manière. Si un service veut échanger un message avec un autre service, il faut que tous les deux soient d'accord sur la manière de communiquer. Cette manière de communiquer, elle s'appelle ActivityPub. Et elle est déjà implémentée par pas mal de services alternatifs. Par exemple, des alternatives, on peut trouver des alternatives à YouTube pour les vidéos, comme par exemple PeerTube. On a aussi des alternatives à Twitter avec le réseau social Mastodon. On a des alternatives à Instagram avec le réseau Pixelfed. On a tout ce qu'on veut et ce qu'on gagne avec le protocole ActivityPub, c'est que tout le monde peut parler ensemble. Imaginez si on pouvait, depuis notre compte Facebook, faire un retweet, ensuite mettre un commentaire sur une vidéo YouTube. Tout ça serait complètement inimaginable avec des plateformes centralisées. Mais c'est déjà possible et ça se fait déjà sur la fédération. Depuis un compte Mastodon, on peut suivre une chaîne sur PeerTube. On peut suivre ou partager des posts sur Pixelfed, etc. On a vraiment une interopérabilité entre des plateformes qui ne seraient pas possibles avec un modèle centralisé. Et donc, pour parler un peu plus en détail de comment ça fonctionne, ActivityPub, chaque personne, elle a une sorte de boîte de réception et une sorte de boîte de sortie, une sorte d'inbox, une sorte d'outbox. Et donc, si je veux envoyer un message à quelqu'un d'autre, ça marche un peu comme le mail. Mon message ira dans sa boîte de réception et les messages que je reçois moi-même, ils iront dans ma propre boîte de réception. Et donc, cela fait que, vu que tout le monde utilise, tous les acteurs utilisent une inbox, une outbox, peu importe le type de contenu qu'on partage, peu importe si c'est des vidéos, si c'est des images, si c'est des posts, dès le moment où ça arrive dans ma boîte de réception, je pourrai visualiser le contenu.
Merci beaucoup, Andrés, pour cette explication. Alors effectivement, voilà, on a bien compris qu'on avait des serveurs un petit peu disséminés qui étaient capables de communiquer entre eux grâce à un protocole. Et à partir du moment où il y a publication de contenu, comme tu disais, que ce soit des images, des vidéos, des fichiers ou de l'audio, comme avec Funk Whale, eh bien, à partir du même protocole, de la même, pas forcément de la même plateforme, mais du même endroit, on peut gérer tout ça et suivre des personnes en particulier, comme on le ferait sur des réseaux sociaux traditionnels comme Facebook ou YouTube. Je ne sais pas, Elliot, si tu as quelque chose à rajouter, si on a été à peu près clair.
Oui, non, c'est assez clair. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que, par exemple, c'est le cas pour Funkwell, et je crois que c'était le cas pour Peertube aussi, c'est que ce protocole-là, il ne sert pas forcément juste à des personnes pour communiquer entre elles, mais ça peut servir aussi juste à des serveurs. Par exemple, Funkwell, au début de la fédération, c'était juste de l'échange de musique entre serveurs. Et petit à petit, c'est devenu entre utilisateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément cette notion que tout est public et qu'on va interagir directement entre personnes. Ça peut servir comme base pour d'autres choses qui sont moins grand public. Ça peut être utilisé dans des entreprises, ça peut être utilisé dans d'autres cas.
Oui, effectivement, les cas d'utilisation sont assez nombreux et je pense qu'on va encore en inventer prochainement. Donc, au-delà de l'aspect technique et de l'aspect pratique, finalement, qu'est-ce qui est intéressant dans cette décentralisation ? Alors ça, on en a déjà parlé dans une autre émission, mais on va le rappeler. Mais surtout, qu'est-ce qui est intéressant dans cette fédération et comment le rapporter à la question de la création dont on a discuté et dont, d'ailleurs, le modèle économique fera l'objet d'une prochaine émission ? Est-ce que, Audrey, tu veux nous faire une petite introduction sur l'intérêt de cette fédération?
Ouais, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs points. Il y a les avantages de la décentralisation en soi et après les avantages aussi de la fédération. Au niveau de la décentralisation, on peut d'abord penser à la souveraineté que l'on récupère par rapport au contenu que l'on crée. Puisque c'est vrai que lorsqu'on publie du contenu sur des plateformes plutôt centralisées, à ce moment-là, l'accès à ce contenu, la disponibilité du contenu, etc., dépend de la politique, vraiment de la politique vis-à-vis du contenu justement de ces plateformes-là. Or, quand on a une décentralisation de ces plateformes, à ce moment-là, ça nous donne la possibilité de choisir, les termes, en fait, les modalités d'utilisation des instances en fait décentralisées. Et donc, ça permet de choisir vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser, publier du contenu en fonction des conditions d'utilisation de chaque plateforme. Donc on ne dépend pas des conditions d'une seule et unique plateforme monopolistique, mais on peut vraiment choisir en fonction des conditions de multiples instances. Voilà. Et pour la fédération, peut-être que Rémi, est-ce que tu veux nous parler des avantages de la fédération et de l'interopérabilité rendue disponible par la fédération ?
Ouais, alors j'en ai plusieurs. J'en ai un que j'avais en tête il y a 30 secondes et que j'ai déjà oublié. Du coup, je vais aborder un autre, c'est la notion de la dépendance. Donc là, c'est un petit peu pareil que la décentralisation, mais la fédération permet que tout soit connecté. C'est-à-dire que YouTube, c'est bien parce qu'il y a tout dessus. Si demain, YouTube ferme, on perd énormément de choses. Donc on est vraiment dépendant à YouTube pour tout le contenu qui est sur YouTube. Pour les contenus fédérés, par exemple PeerTube, bah, si demain j'ai une instance qui ferme, il y a tout le reste du réseau qui continue à tourner. Donc on n'est pas vraiment dépendant à ce fournisseur-là. Il n'y a pas de ce qu'on appelle de single point of failure, de point central qui, s'il tombe, casse tout. On a vraiment une indépendance et où chacun, grâce à la fédération, chacun peut choisir de s'abonner à telle ou telle instance. Et donc potentiellement, pas tout le monde n'aura accès à la même chose, mais tout le monde aura accès à ce qui l'intéresse. De plus, il faut, pour que ça fonctionne, fonctionner de façon transparente. On ne peut pas être opaque et fédéré, ça n'aurait pas de sens du coup. Donc ça amène aussi cette obligation de transparence qui fait que ben, on sait ce qu'on regarde, on sait à quoi on a affaire. Et ça me permet vraiment de choisir et d'être vraiment maître des contenus qu'on veut regarder. Notamment le fait que les modèles économiques des plateformes habituelles comme le modèle économique des plateformes habituelles comme YouTube, comme Facebook, comme Twitter, c'est de gagner de l'argent sur votre dos. Le contenu qu'on va voir dessus, il est proposé par des algorithmes qui sont faits pour nous faire rester le plus longtemps possible, nous faire mettre le plus d'argent possible, donc par notre temps de présence. Sur les plateformes fédérées, du coup, ben on n'a potentiellement pas ça, et dans tous les cas, on peut installer nous-mêmes notre instance, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, chacun peut installer son instance à lui. C'est-à-dire que c'est pas très compliqué. Si moi, demain, j'ai envie de monter mon instance Funkwhale, ce qui est le cas d'ailleurs, bah, j'ai mon instance Funkwhale sur laquelle j'ai ma musique, et j'ai accès à la musique de Quentin, et j'ai accès à la musique d'Eliott qui l'a partagée publiquement. Et tout ça, c'est des choses qu'on pourrait pas faire avec les plateformes actuelles.
Ok, bah merci beaucoup Rémi. Effectivement, là les sujets qu'on aborde, ça commence à nous laisser entrevoir que la question du choix et la question de la liberté, c'est des choses qui sont extrêmement essentielles, des composantes essentielles de la fédération, puisque comme l'a rappelé Audrey, eh bien, chaque instance, donc une instance ou un serveur finalement, va avoir ses propres règles. Donc on peut aller sur l'instance qui va soit par exemple parler d'un thème qui nous intéresse en particulier, donc je sais pas, par exemple une instance PeerTube qui parlerait beaucoup de zoologie, quoi, si on est intéressé, ou bien une instance Mastodon qui dirait on peut en fait publier des poètes, donc l'équivalent des tweets de 15 000 caractères si on veut. Donc on est extrêmement libre de choisir ce qui nous intéresse, ce qui convient à notre éthique et à nos envies en termes de conditions d'utilisation. Et effectivement, comme le rappelait Rémi, de suivre les personnes et les instances qui sont en accord avec nos goûts et nos valeurs, et aussi de ne pas dépendre d'un seul fournisseur pour les services. Donc en fait, ça rappelle énormément le fonctionnement du web tel qu'il a été créé, et on en a parlé dans une autre émission, au sens où chacun peut publier son contenu un petit peu de son côté et accéder au contenu des autres sans qu'il y ait justement cette censure qui est de plus en plus exercée par les médias, enfin les réseaux sociaux classiques comme Facebook ou Twitter. On entend beaucoup parler de scandales aujourd'hui, de controverses autour de la censure et de la liberté d'expression. Est-ce que quelqu'un veut rebondir un peu là-dessus pour nous expliquer qu'est-ce qui change ? Audrey, peut-être ?
Ouais, juste, c'est vrai que par rapport à la censure, on peut distinguer deux types de censure différents. Il y aurait la censure directe par suppression du contenu si le contenu ne correspond pas justement à la politique. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques soucis par rapport à YouTube notamment, qui a pu changer sa politique de rémunération. Et puis c'est-à-dire que lorsqu'on est un fournisseur de contenu et que d'un coup on n'est plus d'accord avec la politique de rémunération de YouTube par exemple, eh ben, on est complètement dépendant de ça et on n'a pas d'autre solution pour publier son contenu. Alors que sur une infrastructure décentralisée, à ce moment-là, il n'y a plus cette question de la censure directe, puisqu'on peut choisir de publier son contenu sur une autre instance. Et notamment, Rémi, peut-être que tu veux continuer sur cette question.
Je vais poser une question par rapport à la censure. Donc d'accord, la censure politique, on va dire, c'est mal. Mais il y a quand même des choses qu'on a besoin de censurer. Du coup, comment ça se passe sur ces plateformes-là ? Est-ce que du coup, il y a tous les contenus et il n'y a pas du tout de censure ?
Eh bien, sur ces plateformes-là, non. En effet, il y a... Alors, c'est vrai que la question de la modération se pose, mais... On ne peut pas, parce que je crois qu'on peut choisir sur chaque instance, tu vas m'aider d'ailleurs, mais sur chaque instance on peut choisir.
Peut-être que Elliot
ouais.
Elliot peut peut-être nous aider.
Elliot a de l'expérience là-dessus.
Alors, ouais, ça dépend pas mal en fait de la plateforme. Pour prendre l'exemple de Mastodon par exemple, en fait les personnes qui administrent une instance peuvent choisir de bloquer d'autres instances. Donc si par exemple, je sais pas, il y a des instances, ça a été le cas, qui au Japon fédèrent des contenus qui sont considérés comme pédopornographiques en France, bah du coup, boum, on peut bloquer ces instances-là pour ne pas être embêté si nous, on héberge une instance en France. Donc il y a ça. Et il y a aussi des instances qui bloquent d'autres instances qui sont jugées problématiques sur des termes pas forcément légaux, mais parce que elles vont publier des contenus qui vont être jugés offensants ou dangereux. Et après, cette modération, elle peut se faire au niveau de l'instance, et elle peut souvent se faire aussi au niveau de la personne qui utilise l'instance. C'est-à-dire que si vous êtes inscrit sur un serveur Mastodon, vous pouvez bloquer vous, mais ça ne va pas affecter les autres personnes de l'instance. Vous pouvez bloquer une personne, vous pouvez bloquer une autre instance. Mais ça va juste s'appliquer à vous. Donc il y a souvent deux niveaux en fait, de modération.
Bon, de toute façon, rappelons quand même que les personnes qui hébergent des serveurs ou des instances agissent en qualité d'hébergeur et que, bon, bien sûr, elles sont... soumises aux lois du pays dans lesquels elles hébergent leurs serveurs. Donc évidemment, en cas de contenu illégaux, eh bien, ils doivent être supprimés. Elliot, peut-être que j'aimerais que tu rebondisses sur une question, parce qu'effectivement, l'émission d'aujourd'hui, bon, on a beaucoup introduit le concept de fédération, mais on voulait aussi essayer d'explorer le rapport qu'il y a entre, d'une part, la décentralisation et la fédération, et d'autre part, la création, en particulier dans sa diversité et dans ce que ça peut apporter à la création. Du coup, toi, tu as développé, comme on en a pas mal parlé, cette plateforme de streaming musical fédéré. Est-ce que tu as des billes à nous donner là-dessus?
Tu veux dire sur l'impact de la décentralisation sur la création?
Ouais, exactement. Est-ce que finalement ça va, est-ce que ça peut aider à apporter un petit peu plus de diversité? Est-ce que ça peut changer des choses dans les processus de création et de partage?
Alors, je pense que ça peut aider. À mon avis, ça ne peut pas remplacer complètement des plateformes centralisées, enfin, ou alors ça va prendre très longtemps. Mais je pense que ça peut être un moyen de donner de la place aux personnes qui sont pas, qui sont bloquées sur des plateformes comme YouTube, par exemple. Je ne sais pas, il me semble que YouTube bloque beaucoup de contenu LGBT. Du coup, ça pourrait être un moyen de faire des podcasts sur Google ou des vidéos sur PeerTube, redonner de la visibilité à ces contenus-là et leur redonner une vie un petit peu. Donc je pense que oui, ça peut aider dans ces cas-là, par exemple.
Ok, merci beaucoup Elliot. Peut-être finalement, parce qu'on a aussi là beaucoup parlé de ce que ça apportait aux créateurs et en termes de liberté, mais est-ce que pour l'utilisateur finalement, c'est pas plus compliqué d'utiliser ce genre de service en termes de facilité d'utilisation? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça change? Peut-être que Rémi, tu as un peu d'expérience sur la fédération, tu veux nous en parler?
Ouais, moi en tant qu'utilisateur en tout cas, pour moi c'est transparent, c'est aussi simple d'utilisation. Alors effectivement, ce qui va changer un petit peu, c'est que les suggestions, ça sera pas les suggestions de YouTube qui sont faites exactement pour vous. Mais au final, c'est pas plus mal parce que ça permet de découvrir d'autres choses. Mais concrètement, à part ce mécanisme de mettre en avant certaines choses, c'est la même chose pour l'utilisateur, à la différence près que vraiment on a le contenu qu'on veut voir et pas le contenu que YouTube ou Facebook ou Twitter veut qu'on voit. Donc ça, pour moi, c'est une chose qui est très importante. Et après, ça amène aussi des nouvelles pratiques. Par exemple, moi, sur Twitter, j'ai jamais parlé. Je m'en servais jamais. Là, sur Mastodon, je suis sur une petite instance avec des gens qui sont plus ou moins de la même communauté que moi. Et du coup, j'ai beaucoup plus de facilité à parler avec eux, parce que même si c'est public, je sais que je ne m'adresse pas à la Terre entière, je m'adresse à cette communauté-là. Et donc ça me permet vraiment de créer des choses que je n'aurais pas créées ailleurs, parce que je suis avec une communauté.
Ok, ouais, effectivement, ça change un petit peu les rapports aux autres et les manières de discuter, parce qu'on sait aussi que nos données ne vont pas être exploitées dans un but commercial, ne vont pas être récupérées juste pour pouvoir nous montrer du contenu qui va nous générer du clic, etc. Donc on se sent aussi quelque part plus libre, quoi. Est-ce qu'Andrés, tu veux nous parler un petit peu, justement, pour continuer sur le rapport à la créativité et la fédération, la décentralisation?
Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les contenus s'adaptent à la plateforme et à son modèle de financement. Par exemple, sur YouTube, si on voit beaucoup de vidéos courtes, beaucoup de vidéos plutôt... j'ai pas le terme, mais de vidéos qui font beaucoup de buzz, c'est justement parce que les algorithmes de YouTube sélectionnent ce type de vidéos pour les mettre un peu plus haut dans la file de recommandations. Il y a même des YouTubeurs expérimentés qui parlent de plusieurs stratégies pour faire augmenter son nombre de vues, plus une vidéo est populaire, plus les gens qui regardent cette vidéo vont voir des annonces et plus le créateur va gagner de l'argent. Mais par contre, cela pose problème lorsque certains annonceurs... Parfois, YouTube peut démonétiser les vidéos, c'est-à-dire des vidéos sur lesquelles avant il y avait des pubs qui étaient montrées et qui rémunéraient le créateur sous certaines conditions. YouTube peut décider d'enlever la monétisation et donc d'enlever l'argent du créateur, et le créateur ne peut rien faire, il ne peut rien faire contre ça. Par exemple, j'ai un exemple en tête d'une vidéo un peu féministe où la créatrice s'est vue démonétiser ses vidéos parce que une des sociétés qui faisait de la pub ou plusieurs sociétés qui faisaient de la pub sur YouTube n'étaient pas très à l'aise avec ses propos. Et donc ça crée aussi une forme de censure par l'argent. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça.
Mais, ça fait sens, hein.
Oui. Mais donc, ce qu'on est en train de voir avec toutes ces plateformes alternatives comme PeerTube, comme FunGuale, c'est que c'est la création même du contenu qui est en train d'être redéfini. Le contenu n'est plus soumis à certaines règles qui le rendent attractif pour les annonceurs, mais il est en train d'être transformé. Je ne saurais pas encore décrire cette transformation, mais ça va sûrement s'orienter plus vers du microdent, j'imagine bien voir arriver des petits financements, par exemple un bouton pour donner 1 euro à un canal sur PeerTube ou
avec
sur
Juice par exemple.
Oui, voilà. Et donc, je vois bien, d'ici quelques années, je pense qu'il y aura des modèles de financement alternatifs qui auront émergé et qui, au final, seront plus souhaitables que le modèle publicitaire.
Ouais, c'est vrai que, franchement, le passé d'incentives, on va dire, d'incitatifs très forts au niveau économique pour des vidéastes qui, par exemple, essaient de vivre uniquement de leur activité et qui sont soumis aux aléas, à la loi des algorithmes qui sont très opaques, dont on ne connaît pas les règles et qui vont favoriser les contenus très extrêmes, très manichéens, à un modèle où, par exemple, voilà, le microdent ou ce genre de choses qui va favoriser la création et ne plus se concentrer sur des vidéos courtes et choquante, on va dire, eh bien, ça pourrait permettre à des créateurs qui sont aujourd'hui peu entendus ou peu connus eh bien, d'émerger, de trouver leur communauté. Je crois qu'Audrey, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ?
Juste, en fait, ouais, c'est-à-dire que tu l'as bien dit, hein, mais c'est ça, c'est-à-dire que ce changement de modèle économique finalement et puis d'incitation, ça pourrait changer ce qui est valorisé sur le web. Hein. On pourrait imaginer qu'à terme, ce système d'infrastructure décentralisée, ça permettrait d'échapper à toute cette dynamique de vouloir valoriser d'abord le contenu qui choque pour valoriser davantage du contenu et bien qui serait plus original, plus singulier, plus particulier et puis parce que rémunéré de manière différente. Rémi, est-ce que tu veux conclure sur cette idée de changement de la créativité ?
Ouais, bah alors moi justement sur le changement de valeur, ce qui me semble intéressant, c'est que là aujourd'hui, bah, c'est YouTube qui décide de ce qui a de la valeur sur YouTube. Sur PeerTube, c'est les utilisateurs qui décident de ce qui a de la valeur sur PeerTube. Et ça me semble très important que ce soit vraiment les utilisateurs, que ce soit vous et moi qui décidions de ce qui nous intéresse, de ce qui a de la valeur pour nous. et que nos habitudes de consommation ne soient pas dictées uniquement par les intérêts économiques de YouTube qui va décider qu'est-ce qui a de la valeur pour YouTube, pour Spotify, pour Deezer, etc.
Et moi j'ai une question, Elliot, est-ce que au niveau de, par exemple sur Funk Whale, bon évidemment j'imagine que t'as pas écumé l'ensemble des instances, mais est-ce que tu as remarqué peut-être quelque chose d'un petit peu différent sur le contenu qui est hébergé par rapport aux plateformes de streaming musical classiques? Qu'est-ce qu'on retrouve classiquement sur Funk Whale?
Je pense que c'est un petit peu différent de PeerTube parce que les contenus musicaux, généralement, ils sont sous copyright, donc ils ne sont pas diffusés publiquement sur Funk Whale. Donc ce qu'on voit en fait en public sur Funk Whale, c'est principalement des contenus sous licence libre, on va dire moins grand public entre guillemets que ce qu'on voit habituellement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contenu qu'il y a sur Deezer ou sur Spotify, sur Funk Whale, c'est juste qu'ils ne sont pas forcément publics. Donc c'est assez dur de se rendre compte de comment est utilisée la plateforme juste en jetant un coup d'œil sur la partie émergée de l'iceberg, on va dire.
Ok, je vois. Bien, je pense qu'on a pas mal fait le tour de toute cette histoire de décentralisation et de fédération et son impact sur la création. Est-ce qu'avant qu'on passe au traditionnel quiz et à la musique sous licence libre, quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ok, super. Eh bien, le quiz d'aujourd'hui, effectivement, dans cette émission, on a beaucoup parlé de vie privée, de protection des données, mais on a aussi dit qu'avec ActivityPub, la Terre entière pouvait se connecter avec d'autres personnes et suivre son activité. Évidemment, on se pose la question si moi j'ai envie de garder des choses un petit peu privées ou de les partager qu'avec certaines personnes. Est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est le thème du quiz. Est-ce que dans une fédération, d'une part, tous les contenus sont publics dès lors qu'ils ne sont publiés? Réponse 1. Réponse 2. Chaque instance ou chaque serveur choisit l'audience des contenus de ses membres? Ou bien réponse 3. Chaque membre choisit directement l'audience de son contenu? Pour patienter, nous allons passer une super musique qui a été dénichée sur le site oubudufil.com en Creative Commons by NCSA, ce qui s'appelle Podesser de Andrea Dacal.
Amarras da irrealidade, marchando andando de mãos dadas, chega de mãos atadas. Põe minha mão no fogo para os pureza que estão na mata. Rimas improvisadas servem como carvão pra manter a chama acesa da revolução. Sozinho sou semente, contigo somos caule, com eles somos galhos e assim seremos árvores. Sozinho sou semente, contigo somos caule, com eles somos galhos e assim seremos árvores.
Pode ser, é claro que sim.
Et merci beaucoup à Romain Herman pour la super sélection de musique sous licence libre qu'il nous fait chaque semaine. C'est l'heure de la réponse au quiz. Pour rappel, il portait sur l'audience qu'on peut donner à des publications sur une fédération. Est-ce que Rémi, tu veux te coller à la réponse ?
Bah, si là, t'es encore là, peut-être qu'il peut y répondre. Donc, pour rappeler la question, c'était est-ce que A, tous les contenus sont publics dès lors qu'ils sont publiés ? Est-ce que B, chaque instance choisit l'audience des contenus de ses membres ? Ou c'est chaque membre choisit directement l'audience de son contenu. Elliot, es-tu toujours avec nous ?
Oui, je suis toujours là.
Nickel. Est-ce que tu veux répondre ? C'est une question un peu piège.
Oui, bah, ça serait plutôt B et C, en fait. Enfin, bah, ça va dépendre un petit peu du logiciel, ça va dépendre de la politique d'administration de chaque serveur. Et évidemment, ça va dépendre de la volonté de chaque personne qui utilise. Donc, sur Mastodon, vous pouvez publier un contenu publiquement, mais vous pouvez aussi publier en privé. Mais il ne sera pas diffusé auprès des instances qui sont bloquées par votre propre instance. C'est un mélange de B et de C.
D'accord, merci beaucoup.
Voilà, effectivement, ActivityPub laisse la possibilité de faire quasiment chacune de ces trois réponses, et donc c'est effectivement un logiciel qui utilise ActivityPub de faire les choix. Pour finir, Audrey, est-ce que tu nous ferais plaisir de nous donner les différents liens des choses dont on a parlé dans cette émission ?
Allez, on va vous donner quelques liens que vous pourrez retrouver sur le site de la radio, radio.picassoft.net. Alors en premier, bien sûr, on vous invite à aller écouter et partager de la musique sur funkwhale.audio. Vous pouvez aussi également aller sur, par exemple, peertube.fr pour aller écouter, regarder, visionner des vidéos sur des médias décentralisés. Allez également sur joinpeertube.org pour comprendre peut-être davantage comment ça fonctionne après avoir écouté cette émission. Et puis, finalement, si vous voulez également avoir un aperçu de tous les services proposés qui sont membres de Fediverse, allez voir sur fediverse.party où vous aurez accès à toutes ces instances-là. Voilà.
Il est vrai que honte à nous, on n'a pas prononcé le mot Fediverse de l'émission, alors que c'est peut-être le plus beau mot valise de la dernière décennie. Donc former des mots fédération et universe en anglais. Le Fediverse, c'est l'ensemble des services de différentes, enfin de qui voilà, de, pardon, qui forment toute la fédération. Donc Funkwhale fait partie du Fediverse, Mastodon également, Peertube également. Voilà, bah, c'est le moment de vous laisser. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Merci beaucoup Elliot d'être resté avec nous jusqu'au bout et d'avoir accepté de discuter avec nous.
Merci de m'avoir reçu.
Avec plaisir. Et donc on vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Salut à tous.
Salut.
Salut. Salut.